Nous reprenons le cours de ce Radio Barque avec une troisième partie, comme nous l'annoncions au début, consacrée à notre invité qui est aujourd'hui Alain Fabre. Donc vous êtes Alain Fabre, un des coprésidents du FESELE.
Tout à fait, avec Christian Lapalu et Jacques Lagens.
Ouais. Et alors, on dit FESELE, tout le monde doit se poser la question, ça fait pas un peu bizarre ou un peu inculte. Avez-vous une idée de l'origine de cette dénomination?
Non, là je dois vous avouer que non, j'ai pas la réponse.
C'est vieux comme le monde, quoi. Enfin, presque vieux comme le club, si je comprends bien.
Oui, je pense. Il faudra que je pose la question à André Cabane, qui est la mémoire du club.
Oui.
Il nous le dira.
Et alors, à propos de mémoire, ce club est un des tout premiers qui a été fondé dans l'Aude, puisqu'il date de 1903, soit 4 ans avant, par exemple, le Racing de Narbonne.
Tout à fait. Et le FESELE a commencé à 15, donc, avec une finale jouée contre Quillan, perdue. Donc voilà quoi, et après est passé à 13 beaucoup plus tard.
Oui, alors c'est intéressant justement parce que beaucoup d'auditeurs, à part les spécialistes, ne comprennent pas ce qui a été, qui heureusement n'est plus une guéguerre entre le 13 et le 15. Donc Lézignan passe à 13, je crois en 38, enfin, juste avant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, c'est. Disons que les joueurs étaient officiellement amateurs, voilà, et certains voulaient s'afficher professionnels. Et la seule solution qu'ils ont eue, vu qu'ils étant professionnels, ils ont été radiés par la fédération à 15. Donc il a été créé le rugby à 13 sur le modèle anglais, qui a pu intégrer des joueurs professionnels.
Oui, donc c'est la professionnalisation du rugby qui fait que, à un moment, Lézignan choisit de passer professionnel et donc par la force des choses de passer à 13.
Exactement.
Et alors, ça, bon, après, il y a la guerre qui arrive là-dessus, mais ça a suivi, ça n'a jamais été remis en cause depuis, apparemment.
Non. Lézignan est resté à 13, d'autres clubs ont suivi, ils sont passés à 13, un championnat a été créé. Après, nous avons été interdits pendant la guerre par le gouvernement de Vichy. Après la guerre, la question, je pense, s'est pas posée de reprendre le rugby à 13. Et voilà, et puis l'aventure est partie. Avec une grande épopée du rugby à 13 jusqu'à dans les années 80 à peu près, où là, le déclin s'est amorcé suite à des événements de violence. Et puis quand même la guerre qu'il y avait entre les deux fédérations. Les deux fédérations qui, quand même, la fédération à 15 qui œuvrait pour anéantir le 13, on va dire.
Oui, mais qui œuvrait quand même en sous-main avec des croche-pieds, des chausse-trappes et tout ça, j'ai bien compris. Remarque. Alors, c'est vrai que Michel Santo a été un joueur de 13.
Oui.
Donc, je lui cède la parole.
Non, mais c'est pas là-dessus, simplement pour montrer à quel point la guerre entre les deux fédérations, enfin 15 et 13, était importante, quoi, était vraiment très très brutale. Ce n'est que tout récemment que le rugby à 13.
Oui.
A été validé.
Oui, avant, c'est le jeu à 13.
La fédération de français de rugby à 15 a toujours fait pression pour que jamais dans ce pays, l'expression rugby à 13 ne soit effectivement officialisée. Pour vous dire effectivement la violence des rapports entre les deux fédérations.
Donc, monsieur Alain Fabre est président d'un club de rugby à 13.
Il faut insister
là-dessus, le FESELE de Lézignan. Alors, vous parliez de professionnel. Aujourd'hui, quel est le statut d'un joueur moyen dans le club du FESELE? Il n'est pas vraiment professionnel aujourd'hui.
C'est un joueur amateur qui s'entraîne comme un professionnel. Voilà. Donc le rugby à 13 est un sport très exigeant physiquement. Il faut un cardio énorme, des moyens physiques, on va dire, exceptionnels. C'est de l'affrontement direct, d'homme à homme. Et donc, voilà, donc ça leur demande un entraînement quotidien et intense. Voilà, je tiens à préciser dans l'histoire du rugby à 13, pour montrer la puissance de la fédération à 15 pour nuire au 13, c'est que pendant des années, il a été occulté que le rugby à 13 a été le premier sport collectif champion du monde. En 1951, voilà, la fameuse tournée de 51, où les Français ont battu deux fois l'Australie. Et la deuxième fois, les Australiens ont remis leur titre en jeu, et les Français ont gagné. Voilà, donc, contrairement à ce qui a été annoncé pendant des années, le premier sport collectif champion du monde n'est pas le handball, même si eux, après, ont brillé. C'est le rugby à 13 français.
Voilà. Donc, c'est des choses, finalement, que beaucoup de gens ignorent, du fait, probablement, que ce 13, ce rugby à 13, a été masqué, a été refoulé un petit peu, pour tout un tas de raisons, par une volonté des concurrents, bien sûr, mais des médias français qui ont relativement joué ce jeu-là aussi.
Y compris les politiques, parce que c'était aussi un combat politique, en fait, derrière tout cela, en fait, entre certains grands dirigeants du 15 pendant l'occupation, et puis, effectivement, les dirigeants du 13 et ceux qui le pratiquaient, qui étaient vraiment dans le camp en face.
Oui, alors, vous le disiez tout à l'heure, Alain Fabre, l'interdiction par Pétain pendant les années pétainistes, ça reposait sur quoi ? De quel crime accusait-on le rugby à 13 ?
Là, je ne saurais pas vous répondre. Peut-être Michel a la réponse. Moi, je ne sais pas. Mais je pense tout simplement, voilà, une rivalité. Il fallait détruire le rugby à 13 parce que le rugby à 13 était allé puiser dans le réservoir des joueurs quinzistes.
Oui, mais ça, c'est les jalousies internes. Mais comment un chef d'État pouvait-il se mêler d'une interdiction sportive comme ça ?
C'est assez... Je pense qu'il suffit d'une ou deux personnes qui ont l'oreille d'un président et puis voilà, quoi, on y arrive. Hein.
Certains historiens du sport font référence à l'anglophilie en fait, des dirigeants du 13 en fait, et des pratiquants.
Oui, alors ça, c'était un sujet suffisant peut-être. Pour que ce sport soit associé à Churchill aux Anglais et donc soit banni. Alors oui, vu comme ça, ça peut se comprendre. Et alors le feu se leu aujourd'hui, donc je lisais récemment que c'est quand même parmi l'élite donc, du 13, un des clubs qui a les meilleurs budgets. 600 000 euros, je crois, c'est
un petit peu plus.
Un peu plus, oui.
Ouais, on approche les 800 000 euros.
Oui, voilà. Bon, donc ça, et vous faites partie, pour une ville modeste comme Lézignan, quand même des gros budgets.
Oui, on doit être le troisième budget sur le nombre de clubs que nous sommes en élite, c'est-à-dire 9. Voilà, donc c'est vrai qu'on a un soutien du tissu économique local, hein, parce que c'est uniquement du partenariat local. Les entreprises locales sont quand même attachées au club. On a quand même un soutien important aussi de la municipalité de Lézignan, qui a pris conscience que le feu seuleux était quand même un lien social, hein, sur Lézignan.
Et un porte-drapeau aussi.
Un porte-drapeau, un modèle d'intégration. D'ailleurs, je tiens à souligner que cette année, on a eu à Lézignan, tout le monde sait qu'on a une population gitane assez importante, et nous avons eu le premier international gitan, voilà, dans la catégorie cadet.
Qui s'appelle ?
Louis Castre, voilà, et qui cette année joue en junior, et d'ailleurs a fait un très bon match dimanche. Donc voilà, ça, nous en sommes fiers quand même. Donc voilà, le feu seuleux, je pense, c'est un élément essentiel à la vie locale. Même si des fois le public se fait un peu rare au stade, ils se tiennent quand même au courant de ce qui se passe. Quoi. Donc quand le feu se le marche, eh bien, tout va bien. Quand le feu se le marche pas, on entend parler. Quoi.
Oui, dans le lendemain ou le soir même, dans le radio-barque de Lézignan, on en parle beaucoup. Quoi.
Voilà, exactement.
Oui, et donc effectivement, la hauteur de ce budget démontre une mobilisation de l'ensemble des forces vives de Lézignan et du Lézignanais.
Oui. Oui. Oui, voilà, tout le monde suit le club, les entreprises, la municipalité, les collectivités. Voilà, le feu seuleux est un élément essentiel à la vie lézignanaise. Il est là, on ne le remarque peut-être pas, mais s'il n'était pas là, là par contre on le remarquerait.
Oui, et alors vous parliez de lien social et de facteurs d'intégration. On peut remarquer, si l'on compare par exemple avec le voisin du Racing, qui aujourd'hui a, c'est du 15 d'accord, mais qui a une énorme partie de ses effectifs venant d'ailleurs et notamment des antipodes, on remarque que du côté du feu seuleux, il y a très peu d'étrangers. Pourquoi ?
Et jusqu'à maintenant, on en avait nous aussi. Hein. L'année dernière, on en avait 4. Hein. 4 joueurs australiens.
4, mais 4, ça ne fait pas la moitié de l'effectif.
Non, mais bon, c'est déjà beaucoup à notre niveau, à nous. Hein. Voilà, et c'est à peu près c'est la moyenne dans tous les clubs 13istes, entre 4 et 6. Nous, on a fait un choix, on a fait un choix différent de faire confiance à des joueurs français. Parce qu'on se plaint tout le temps que l'équipe de France a du mal, que si, que là, par rapport aux Anglais, Australiens et Néo-Zélandais. Mais si on ne fait pas confiance aux joueurs français, ils ne progresseront jamais. Donc voilà, on a fait le choix, on a fait un recrutement ciblé. On a pu, comme on s'est engagé quand même très tôt dans la saison, Jacques Laguens, Christian Lapalue et moi-même, pour continuer à diriger le club, on a pu attaquer le recrutement très tôt. Et donc on a pu cibler les joueurs que l'on voulait. On a pris des joueurs jeunes. De 20 ans jusqu'à le plus âgé à 25 ans, voilà, de façon à construire pour l'avenir. et de voilà, et de donner confiance aux joueurs français. Voilà, parce que c'est pas la peine qu'on forme des jeunes de premier pas à cadet junior pour derrière que ce soit un Australien qui vienne leur prendre la place. Voilà, il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils peuvent accéder à jouer en élite. Alors bien sûr, la marche est haute à franchir. Hein. C'est compliqué, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Mais voilà, nous, on a fait confiance aux joueurs français. Voilà, on est peut-être on est trois clubs à fonctionner comme ça. C'est l'UTC, qui aussi c'est 100% joueurs français. Nous-mêmes, et Toulouse cette année, qui apparemment va fonctionner avec beaucoup de joueurs français jeunes.
Oui. Voilà. Et alors, ça veut dire aussi, finalement, que c'est un investissement à moyen et à long terme, ce qui signifie, par exemple, que vous acceptez peut-être d'avoir peu de chances d'être champion pendant 1, 2, 3, 4 ans.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Ah.
On reste ambitieux. Les joueurs qu'on a recrutés, on leur fait confiance.
Bien entendu, on va pas on va pas dire c'est des losers quand ils rentrent terrain.
Pas
c'est
tout,
pas ça
pas du tout. Ce sont des joueurs de grande qualité.
Mais il leur faut un temps de maturation quand même.
Oui, mais bon, vous savez, on a un entraîneur qui est considéré dans le monde athlétiste comme le meilleur entraîneur français. Donc faisons-lui confiance. Il sait où il va. Et voilà, il dirige bien sa barque. Hein. Je pense que l'an dernier, personne ne nous donnait gagnant. On avait un effectif un peu juste. Bon, à l'arrivée, contre toute attente, on a gagné la Coupe de France. Et avec un match héroïque en finale. Donc, on verra. On verra la fin.
Oui.
Après, voilà, il ne faut pas non plus être trop optimiste. Et
il faut rester réaliste
faut rester
aussi,
humble,
mais en sachant voilà. qu'on vise un peu plus loin.
Voilà, on respecte,
en fait, c'est
on
reculer pour mieux sauter, d'une certaine façon. Mmh.
Non, on a des ambitions, on ne les cache pas. Hein. Maintenant, bon, voilà, de toute façon, plus que les Lézignanais, ils ne supporteraient pas d'avoir une équipe qui...
Perdante.
Voilà, qui figure mal. Donc, voilà, on a quand même recruté, on a récupéré un garçon comme Damien Cardas, qui sort de l'effectif des Dragons, qui est un joueur de grande qualité, qui est international. Voilà, quoi, on a recruté de très bons joueurs. Voilà, lui, en plus, c'est un retour au club, hein, c'est d'autant plus agréable pour nous. Ou un jeune comme Anthony Delaigne, hein, qui était parti jouer à 15 et l'an dernier qui joue à Toulouse,
qui revient
aussi. Voilà, on est fiers aussi d'avoir 17 joueurs issus de notre formation dans l'effectif élite.
Oui, c'est remarquable. Ouais.
Voilà, on doit être un des rares clubs où c'est comme ça. Quoi.
Voilà, eh bien écoutez, on en aura appris beaucoup aujourd'hui grâce à vous, Alain Fabre.
Merci Alain.
Sur ce feu-le, et dont les auditeurs, j'en suis certain, beaucoup ont appris que c'est véritablement un des clubs les plus anciens de l'Aude, puisqu'il est né officiellement et il existe depuis 1903.
Tout à fait.
Merci encore une fois donc pour ce feu-le-feu que nous suivons évidemment par ailleurs hors Radio Barque sur l'antenne de Grand Sud FM au quotidien ou à l'hebdomadaire à chaque fois qu'il y a un match, puisque l'entraîneur nous fait son petit speech de préparation et nous brief, son petit brief disons de préparation radiophonique sur cette antenne. Merci encore, et le prochain invité sera Didier Codorniou, dont nous rappelons que le PRG tient ce week-end son grand congrès. Grand congrès à Montpellier, sur les terres de qui ?
De Monsieur Sorel. Et voilà, donc à suivre de très très près les annonces qui seront faites.
Même ce joueur de rugby.
Merci à vous en tout cas, et à la semaine prochaine.
À bientôt.